Europe 1.
Heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre. Vous aimez apprendre, vous aimez rire et surtout c'est le plus important, je dirais même que c'est là l'alpha et l'oméga de toute vie réussie. Vous aimez Stéphane Bern, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous savez, les gens vous aiment aussi. Hein,
oui, mais
peut-être
oui.
Un peu moins, mais ils vous aiment.
J'aime ce cri du cœur.
Ils vont apprendre à vous aimer.
Plein début d'émission.
Comme chaque après-midi, c'est une joie de vous retrouver pour 2 heures de gai savoir. Autour de 3 personnages issus d'époques différentes, mais partageant un point commun. Aujourd'hui, Mathieu, vous aimez les princes.
Ouais, surtout ce four et la vanille, Stéphane.
Quelle rebelle vous faites. À la une, cet après-midi, justement, ils le sont presque autant que vous, rebelles. Hein. On réunit 3 princes rebelles. D'abord, Gaston. Oui, c'est le petit nom du duc d'Orléans, le frère cadet du roi de France Louis XIII. Lâche et sans cervelle pour Richelieu, son ennemi juré. Il est derrière la légende noire, un prince avide de liberté qui a protégé les artistes, encouragé les sciences et mis en avant les savants de son temps. Lui aussi était un savant de son temps, pas si lointain, un génie de la musique et une note suffit à le reconnaître.
Ah, Michael Jackson.
Non.
Non, l'autre, oui.
Il s'est autoproclamé
c'est ça.
Prince, ou plutôt Prince. Un rebelle qui n'aimait pas les étiquettes et nous a quittés il y a tout juste 5 ans. On revient sur son destin cet après-midi. Quant à vous, Mathieu, parmi les vivants, vous nous parlerez d'un vrai prince, assez rebelle aussi, il faut croire.
Oui, Harry, un ami à qui vous voulez du mal, Stéphane, d'après ce que j'ai pu comprendre de vos diverses interventions médiatiques suite à son interview avec Oprah Winfrey. Vers 17h20, je tenterai, tant que faire se peut, de redorer l'image de ce malheureux prince Harry que vous détestez tant alors qu'il ne vous a rien fait.
Il m'a traité d'idiot.
Mais non, arrêtez de vous chamailler. En parlant d'idiot, Stéphane, qui voilà autour de nous?
Oh non. Non. Alors, on peut tout dire d'eux. Mais plutôt, ce sont des merveilleux chroniqueurs. Elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde et toute cette semaine, à l'occasion du bicentenaire de sa disparition, elle entre dans l'intimité de Napoléon. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, et oui, droite dans mes bottes.
Alors,
hein.
Oui. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode.
Deuxième épisode de ma chronique consacrée à l'Empire. Et aujourd'hui, je vais vous parler des petites manies de Napoléon. Il en avait de nombreuses. Et la première, qui s'exprime sous forme d'un verbe un peu désuet, le verbe pétuner. Ça vous dit quelque chose?
Moi, il m'arrive régulièrement. La semaine encore,
vous
la
pétunez,
semaine dernière, j'étais en train de pétuner.
C'est
péter,
c'est péter. Non, pas du tout. Pétuner, c'est priser. Il adorait priser l'empereur. Et pour, comme une fois encore, mettre ma chronique sous des auspices favorables, je vous ai apporter une nouvelle fois un objet que
un
voici cette fois.
Non, voilà, un éperon.
C'est un éperon, cher monsieur.
Non,
c'est...
Tout rouillé.
Alors, c'est un
mais
éperon.
Vous n'avez pas peur de se rappeler
le
tétanos?
C'est un éperon à crête de coq
Stéphane.
Qui a été porté
par
sur Napoléon. Les bottes d'un cavalier français à Pratzen, à Austerlitz.
Oh, non, mais elle a fait son marché à Austerlitz.
Extraordinaire. Ah bah oui, bien sûr.
Décrivez l'objet.
Alors, imaginez un éperon extrêmement rouillé, mais dont la partie, la molette en somme, a une forme de crête de coq. Donc on sait à cela reconnaître qu'il s'agit d'un éperon porté par un cavalier français. Et vous savez que Murat, qui dirigeait la charge de la cavalerie française à Austerlitz, à un moment il s'est adressé à ses cavaliers, il leur a dit « Et maintenant, soldats, visez le trou de mon cul !» Et il est descendu dans la plaine. Et bien cet éperon ici présent, exactement.
Viser le trou de mon cul, ça veut dire qu'il était en première ligne.
Ben, bien sûr. Et il a eu un nombre incroyable de chevaux tués sous lui.
Et c'est quoi cette petite boîte que vous avez à côté?
Ah, alors là, cette petite boîte, c'est une
boîte.
Une
boîte à priser. Ah non, c'est une balle. Ah oui, elle ramène une balle,
c'est
d'accord.
Une balle de oui. Voilà.
Je sens qu'on va s'amuser comme des petits fous. À Austerlitz, ce qui manquait, je vais vous dire, c'est le roi Cutane. Le roi Cutane,
il a sauvé tous les boutonneux de la terre.
Exactement. Et avant, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ça a été inventé par qui, comment? Et ben je vous le dirai.
Mais ça donne des sécheresses. Aujourd'hui, on mesure enfin.
Je vais vous dire.
C'est dangereux.
Ça donne pire que des sécheresses.
Ça donne quoi?
Ça donne que moi, par exemple, tel que vous me voyez, quand j'étais jeune, j'étais mat. C'est-à-dire que je bronzais facilement. Aujourd'hui, je suis blanc comme un cul d'anglais à Brighton. Et limite, j'ai l'impression d'être devenu roux tellement j'ai pris droit cutane.
Ah oui?
Oui. C'est à cause de ça?
Et c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que d'autres dermatologues
m'ont dit. Et moi, on m'a dit que ça donnait des sécheresses, par exemple. Le fait de ne pas avoir assez de larmes.
Ah mais bien sûr, mais de toute façon, c'est le principe de l'Oracutane, c'est que ça vous assèche la gueule. Comme,
On aura parlé dermatologie, on aura parlé acné, on aura l'appétit ouvert pour évoquer le saumon à l'oseille. Bonjour Olivier.
Je vous laisse avec votre mixture improbable. Moi, je vais préparer un saumon à l'oseille, recette emblématique d'un cuisinier qui ne l'est pas moins. Je vous raconterai la légende de cette recette inventée par Pierre Troisgros dans les années 60.
Oh, fabuleux, Troisgros, fabuleux. Enfin, c'est une rubrique très importante de notre émission qui sera toujours une sorte de rempart
face à l'obscurantisme.
Tout à fait. Burn to be alive. Le seul quiz dont les règles peuvent changer en cours de quiz à la faveur de mes désidératas. Ça sera vers 5h-10. Mais tout de suite, découvrons la vie haute en couleur d'un prince pas comme les autres, un rebelle au sang bleu. Stéphane Bern nous raconte Gaston d'Orléans.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il entrera dans toutes les affaires parce qu'il n'avait pas la force de résister à ceux qui l'entraînaient. Il en sortit toujours avec honte parce qu'il n'avait pas le courage de les soutenir. Voilà ce que dit le cardinal de Richelieu au sujet de son fidèle ennemi, Gaston d'Orléans. Influençable, lâche, trublion, sans cervelle. Depuis sa mort, le frère de Louis XIII a très mauvaise réputation. Derrière la légende noire, il est surtout un prince avide de liberté. Gaston d'Orléans est né à Fontainebleau en avril 1608. Il est le troisième fils d'Henri IV et de Marie de Médicis après Louis et Nicolas. Deux ans après sa naissance, son père est assassiné par un fanatique catholique, Ravaillac, et son grand frère devient roi sous le nom de Louis XIII. Comme celui-ci n'a que 8 ans, c'est la reine-mère Marie de Médicis qui exerce la régence. Le deuxième frère, Nicolas, meurt l'année suivante. Gaston devient duc d'Orléans et prend le titre de monsieur, monsieur frère du roi. Mais surtout, le voilà désormais le plus proche héritier de Louis XIII. Dans la famille, les relations sont compliquées. Gaston est le chouchou de Marie de Médicis, peut-être parce qu'il ressemble à son père. Quoi qu'il en soit, lui, comme sa mère, ont du mal à s'entendre avec Louis XIII. Il faut dire qu'en avril 1617, le roi se rebelle contre elle en faisant assassiner ses proches conseillers, Concino Concini et son épouse Leonora Dori, surnommée la Galigaille. C'est avec cette guerre de la mère et du fils que débute vraiment le règne de Louis XIII. Marie de Médicis est envoyée en exil à Blois, tandis que son conseiller Armand-Jean du Plessis de Richelieu organise la réconciliation. Élevé à la fonction de cardinal, Richelieu devient le principal ministre du roi en 1624. Gaston grandit au milieu de ses troubles. Élevé par des précepteurs originaux, il profite de sa jeunesse durant laquelle il a un peu fait le fou, raconte le poète Talmant des Réaux dans ses écrits. Ado rebelle, il connaît par cœur toutes les chansons à boire et bon nombre de poèmes érotiques. Il fait les 400 coups avec ses compagnons qu'il surnomme son conseil de vaurienerie. Devant le libertinage de son frère, Louis XIII est scandalisé. C'est décidé, il faut le marier. Alors que Gaston d'Orléans rêve d'une princesse étrangère pour asseoir son autorité en Europe, on lui trouve une fiancée en la personne de Marie de Bourbon-Montpensier. Sa famille est aussi noble que sa fortune, mais elle est d'une laideur incontestable. Oh non, Gaston n'est pas le seul à faire preuve de réticence. Un parti de l'aversion au mariage se constitue avec divers protagonistes. La reine Anne d'Autriche, qui ne veut pas affaiblir sa position, la duchesse de Chevreuse, grande ennemie de Richelieu, ou encore le prince de Condé, deuxième dans l'ordre de succession après Gaston. Mais la conspiration arrive aux oreilles du roi. Furieux, celui-ci frappe un grand coup en faisant arrêter les coupables, dont le maréchal d'Ornano, précepteur de Gaston, en mai 1626. Le prince est pardonné, la cour gagne Nantes et le mariage tant contesté est célébré. Gaston obtient les duchés d'Orléans et de Chartres, ainsi que le comté de Blois comme apanage. Moins d'un an plus tard, l'épouse non désirée décède prématurément après avoir donné naissance à une fille, Anne-Louise d'Orléans, qu'on surnommera la Grande Mademoiselle. Les intrigues se jouent et se déjouent à la cour. Avec la journée des dupes de 1630, Marie de Médicis est encore mise sur la touche. Gaston d'Orléans ne supporte pas cette trahison envers sa mère et l'année suivante, il annonce à Richelieu qu'il renonce à son amitié. Il se réfugie en Lorraine, chez le duc Charles IV, en guerre contre la France, et publie depuis Nancy un manifeste contre le cardinal qu'il décrit comme un prêtre inhumain et pervers, pour ne pas dire scélérat et impie, qui a introduit dans le ministère la perfidie, la cruauté et la violence. Il l'accuse d'être indifférent à la souffrance du peuple et se pose en défenseur de la liberté et de l'état de droit. Libre, Gaston d'Orléans l'est de tout son cœur. Les alliances matrimoniales sont le fruit d'entreprises diplomatiques, surtout lorsqu'on est l'héritier de la couronne, mais il n'en a que faire. Rebelle, vous l'avez compris. Le duc n'écoute que son cœur et épouse en seconde noce Marguerite, la sœur du duc de Lorraine. Avec le duc de Montmorency, puissant gouverneur du Languedoc et l'aide de sa mère, Gaston d'Orléans monte une coalition qui échoue lamentablement à Castelnaudary en septembre 1632. Alors que Montmorency est décapité à Toulouse, eh ben oui, l'effet de trahison, ça rigolait pas. Oui. Gaston d'Orléans, ben c'est le frère du roi, est une nouvelle fois pardonné. Ce n'est pas une raison pour se tenir à carreau. 2 ans plus tard, il flirte encore avec les ennemis de la France en signant avec l'Espagne un traité secret contre Richelieu. En 1638, alors qu'on ne l'attendait plus, après 23 ans d'union stérile, arrive le premier bébé du roi et de la reine. C'est un miracle. Au revoir et merci Gaston d'Orléans. C'est le futur Louis XIV qui devient l'héritier de la couronne d'un royaume de France bien agité. Richelieu continue d'humilier les grands du royaume. Grâce à son réseau de renseignements, il démantèle les complots qui se nouent contre lui, comme celui du marquis de Saint-Mars, dans lequel trempe Gaston d'Orléans en 1642.
Et il n'arrête pas.
Et Cinq-Mars va piller cher lui aussi, alors que c'était le favori du roi. Quelques mois après cette énième tentative d'assassinat, Richelieu meurt, laissant la place à un autre cardinal, italien cette fois, Mazarin. Ce dernier permet le retour en grâce de Gaston d'Orléans. Le prince se réhabilite alors par ses campagnes militaires victorieuses contre les Espagnols. En 1648, s'achève la guerre de 30 ans. Enfin, un peu de répit, mais pas à l'intérieur du pays. Mazarin veut maintenir le Parlement dans l'obéissance et provoque le soulèvement des princes. Notre éternel comploteur est toujours au rendez-vous et navigue d'un parti à l'autre. En 1652, après avoir maté la fronde, Mazarin envoie Gaston en exil dans son château de Blois. Ces princes rebelles, il ne peut plus les voir en peinture. C'est dans son château de Blois, où il est exilé après l'échec de la Fronde en 1652, que Gaston d'Orléans termine sa vie. Il a confié des travaux à l'architecte François Mansart, qui en a fait un joyau de l'art classique. Pilastres, colonnes, chapiteaux et frontons rappellent l'architecture grecque antique et annoncent déjà le style de Versailles. À Blois, on lui doit aussi la chapelle des Jésuites au pied du château et l'hôpital général du faubourg de Vienne qui témoigne de son dévouement à la cause des pauvres. Il n'avait rien, sans exception, de tout ce qui peut distinguer un grand homme, écrit à son sujet le cardinal de Retz dans ses mémoires. Contrairement à l'image écornée par ses détracteurs, Gaston d'Orléans a toutes les qualités d'un grand prince. Mécène, collectionneur, humaniste, féru d'antiquité, il se constitue un cabinet de curiosité avec des œuvres d'art, des médailles, des cartes, des estampes et une belle collection de plantes peintes sur vélin qui serviront aux botanistes de l'Académie des sciences. Il protège les artistes, comme Molière, encourage les sciences et s'entoure des savants de son temps. C'est pourtant dans une indifférence royale que meurt Gaston d'Orléans le 2 février 1660. Louis XIV n'apprend la nouvelle que 8 jours plus tard et ne peut interrompre les réjouissances prévues pour célébrer ce jour-là le traité des Pyrénées signé quelques mois plus tôt. Pour sceller la paix avec l'Espagne, son mariage avec l'infante Marie-Thérèse est fixé pour le printemps. Il n'a donc pas le temps de s'occuper de la mort de cet oncle encombrant. Dans les villes du royaume résonne parfois le même jour et dans les mêmes églises, requiem pour le prince défunt et te deum pour la paix. Une salle, 2 ambiances. Dans son oraison funèbre, Jean-François Senot, futur général de l'ordre des oratoriens, écrit que le prince est attaché à la justice et au maintien de la liberté du peuple. En septembre 1663, Jean de La Fontaine se rend au château de Blois et ajoute que « les peuples de ces contrées le pleurent encore avec raison. Jamais règne ne fut plus doux, plus tranquille ni plus heureux que l'a été le sien. Et en vérité, de semblables princes devraient naître un peu plus souvent ou ne point mourir. » Le prince a au moins évité une mort atroce comme celle du comte de Chalais avec qui il conspirait contre Richelieu en 1642. Le bourreau a dû s'y reprendre à 29 fois pour lui trancher la tête. Gaston d'Orléans, lui, s'est éteint dans son lit, la tête sur ses épaules. Prince rebelle, certes, mais prince quand même. Et on ne coupe pas la tête d'un prince. Enfin, pas encore.
Pas encore, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
autres. Et pour continuer à parler du duc d'Orléans, nous sommes avec un spécialiste. Non pas que vous ne soyez pas un spécialiste, Stéphane, on a senti que le sujet vous touchait, mais nous sommes avec l'historien Pierre Gatul. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour Pierre Gatul, vous êtes professeur d'histoire et auteur de plusieurs ouvrages sur Gaston d'Orléans, dont Gaston d'Orléans entre mécénat et impatience du pouvoir, paru aux éditions Champvallon. Gaston d'Orléans était un prince rebelle. Prince rebelle, c'est même en partie le nom d'une exposition qui lui a été consacrée en 2017, je me souviens, au château de Blois, et dont vous avez co-signé le catalogue avec Jean-Marie Constant. Pourquoi ce titre lui va si bien, d'ailleurs lui colle à la peau, le prince rebelle, c'est vraiment Gaston d'Orléans?
Oui, tout à fait. Ce titre lui va bien parce que, pour commencer, Gaston ne veut pas jouer un rôle de figuration. C'est absolument hors de question pour lui, il veut jouer un rôle actif. Et ce titre de prince rebelle permet non seulement d'inclure, évidemment, la révolte armée, la prise d'armes, mais cela inclut aussi sa liberté. Ce qu'il appelle sa liberté, c'est en tant que prince, bien sûr, une liberté à laquelle il tient beaucoup, la liberté de dire, de faire, la liberté d'être. Et je crois que le meilleur exemple de cette liberté, c'est précisément ce second mariage dont vous avez parlé avec Marguerite de Lorraine, parce que ce mariage se fait sans le consentement du roi, en terre étrangère. Donc c'est à la fois un défi extraordinaire et c'est aussi une affirmation de la liberté.
Ça ne se faisait pas du tout, pardon, non, parce que non, ça c'était non, vous le savez, mais nos auditeurs peut-être, c'était vraiment c'était scandaleux à l'époque, genre on considérait comme son comportement comme totalement atypique.
Atypique. Alors, il obtient le consentement de la reine-mère, Marie de Médicis, mais qui s'en exile
pas
aussi.
Avec le roi,
donc évidemment, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que derrière ce consentement, il y a non seulement cette question de rang, d'honneur, d'obligation, mais c'est qu'il est en mesure d'assurer à nouveau sa descendance, par conséquent une descendance masculine. Il est encore héritier du trône. Et il est héritier du trône surtout dans l'incertitude. Parce que le couple royal n'est pas stérile, on le sait, mais ils ne s'entendent pas. Par conséquent, étant donné que la santé de Louis XIII est très fragile, eh bien Gaston se voit presque roi à plusieurs reprises. Et les enjeux de ce mariage avec le consentement ou sans le consentement du roi se trouvent entre autres là. Il y a aussi, bien sûr, le fait que ce n'est pas n'importe quelle princesse. Nous sommes en Lorraine, c'est un duché catholique, il y a la guerre de 30 ans, ça devient compliqué.
Une question quand même, quelle différence vous faites entre prince rebelle et prince traître? Parce que, franchement, dans l'histoire, Gaston d'Orléans passe pour un traître.
Ah, mais là, justement, c'est le travail de Richelieu. Richelieu doit travailler une opération délicate, extrêmement difficile. C'est-à-dire que toute tentative de rébellion, de prise de parole de Gaston doit être réduite à néant. Mais en même temps, il ne peut pas l'atteindre, lui en personne, puisqu'il est fils de France. C'est un rang qui est considérable et héritier du trône. Par conséquent, la trahison va toucher ses proches. Il s'agit de réduire sa capacité d'action par sa clientèle, par ses amis, par ceux qu'il protège. Il faut que Gaston soit dans l'incapacité de défendre les siens.
Mais il n'était pas très malin, Richelieu, de ce point de vue-là, parce que, pardon, si le roi Louis XIII meurt, c'est Gaston d'Orléans
et donc ensuite...
qui devient roi et il perd sa rente.
Absolument.
Enfin, il perd son poste.
Mais qu'est-ce que c'était? C'était une jalousie entre eux? C'était un conflit d'intérêts? C'était un conflit politique sur des idées, en fait?
Entre Richelieu et
Gaston.
Entre Richelieu et Gaston, la question est complexe, parce que cette rivalité se situe à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ce que Gaston voit en Richelieu, c'est un favori. C'est un vermisseau, pour commencer. C'est-à-dire que le rang de Richelieu n'équivaut évidemment pas à celui de Gaston. Dans ce sens, Gaston estime que sa place, au sein du Conseil du Roi, par exemple, a été usurpée par Richelieu. Donc, il y a ce premier aspect, mais il y a la politique, ce que choisit de faire Richelieu. Ce que choisit de faire Richelieu, son intention, c'est le parti de la guerre, c'est de s'attaquer à l'Espagne, qui est catholique. Cela, Gaston n'est pas d'accord. Donc, la trahison vient de là pour Gaston. En quelque sorte, c'est Gaston qui va utiliser cet outil-là, cette arme contre Richelieu. Et puis il y a une dernière chose, en définitive, c'est la façon de raisonner Richelieu. Il privilégie la raison d'État. Et cette raison d'État, qui fonctionne d'après la ruse, d'après la dissimulation, d'où vient-elle? Elle vient de la pensée de Machiavel. Et cette pensée de Machiavel n'est pas du tout dans la pensée de Gaston d'Orléans.
Voilà qui est bien expliqué, Stéphane.
Mais ce côté rebelle, on lui trouve des racines, hein, dès l'enfance. C'est vrai qu'il est le préféré de sa mère. Très tôt, Marie de Médicis s'entend pas très bien avec le futur Louis XIII. Elle préfère Gaston. On sent que Gaston d'Orléans a des plaies à vif. Il a été, il a des comptes à rendre quand même. Il a des comptes à régler. Il a des comptes à régler.
Je suis là pour vous, Stéphane.
Oui. Parfois, le français me manque. Vous avez.
C'est parce
mais
que
les autres langues aussi.
Oui, tout à fait. Pour l'enfance de Gaston, je crois que c'est intéressant de regarder de près son éducation, dans le fond. Oui. Il a eu plusieurs précepteurs, de bons précepteurs en général, mais le changement de précepteur doit beaucoup aux soubresauts de la cour, les intrigues, l'assassinat de Concini, vous l'avez cité. Mais ce qui est intéressant dans son éducation, c'est qu'on doit lui apprendre tout d'abord la soumission à l'aîné, c'est évident. Et il faut aussi lui apprendre la souveraineté possible. C'est-à-dire, quand on y réfléchit bien, une tension extraordinaire. Ouais. C'est une tension qui est extraordinaire et qui est renforcée par le fait que, dans son éducation, on insiste sur le prince de guerre. Il doit défendre le royaume. On a des textes qui disent que, par exemple, le dauphin, le futur Louis XIII, doit apprendre la prudence et au cadet, on doit enseigner la force pour défendre le royaume. Bah, ça laisse des séquelles, ça. On comprend très bien, après cela, que Gaston n'a pas envie de jouer un rôle de figuration. C'est contraire à son honneur et à ce qu'on lui a appris. C'est donc parfaitement cohérent. Je pense aussi à une chose, peut-être anecdotique, mais pas tant que ça. Parce que nous avons à la Bibliothèque nationale un livre illustré, magnifique, qui a été fait pour Gaston. Ce sont des figures pour lui apprendre, a priori, la grammaire latine, au moyen de figures, et ce sont des guerriers qui représentent les genres masculins, féminins et neutres. Et Gaston apprend à commander les régiments contre ces régiments des genres, contre les régiments des pronoms, des adverbes. Et c'est absolument étonnant, ce qui montre tout le talent pédagogique de l'éducation de princière. Et en définitive, ce qu'on apprend ici à Gaston, c'est bien sûr tout un imaginaire pour ce petit enfant de 7-8 ans, un imaginaire de la guerre, un imaginaire du combat et de l'honneur qui passe par cette défense du royaume.
Oui, ça dit beaucoup de lui. Hein. L'histoire a pu réduire aussi Gaston d'Orléans au statut de conspirateur qui aurait été manipulé par ses proches. Ça, c'est caricatural, ou il y a un fond de vérité là-dedans?
Oui, effectivement, on peut dire que c'est réducteur, comme vous l'avez dit. Caricatural, certainement, et dans toute caricature, il y a effectivement une part de vérité. Il faut démêler, par conséquent, la part de vérité et la part de ce qui est peut-être excessif, voire complètement erroné. Si on prend cas par cas, un conspirateur complètement manipulé par ses proches, c'est flagrant, par exemple, avec la conjuration de Saint-Marc que vous avez citée. Et d'autre part, pour nuancer cette caricature, voire la contredire, il faut comprendre et savoir qu'il sait dire non, Gaston. Il sait parfaitement dire non à des conspirations. Il ne faut pas oublier que, dans le fond, il est un point de repère pour tous les mécontents du royaume, ce qu'on appelle les malcontents à cette époque-là, parce que les malcontents d'une politique, quel qu'il soit, eh bien, il leur faut un chef, il leur faut un protecteur, et ce porte-drapeau ne peut être que Gaston d'Orléans si on cherche, bien sûr, le plus illustre, parce que c'est le rang le plus haut, dans le fond, surtout s'il est héritier du trône. Par conséquent, de ce côté-là, on peut dire qu'il peut être rapidement et systématiquement contacté pour prendre la défense des mécontents, et ça, ce n'est pas nécessairement ce qu'il souhaite.
Oui, parce qu'il devient le chef de l'opposition, en fait.
Et ce n'est pas comme ça qu'il veut apparaître. Il veut apparaître, au contraire, comme un conciliateur. Alors, le résultat, c'est que ces mécontents, il les écoute. Ça, oui. Gaston écoute beaucoup. Il réfléchit. Et on peut même aller un petit peu plus loin. Gaston hésite. Et là, bien sûr, ses détracteurs vont se saisir de cette qualité ou de ce défaut. Il est très facile de jouer là-dessus. Parce que Gaston, en fait, a très souvent des examens de conscience extrêmement profonds. Il y a de quoi. On peut le comprendre.
Mais d'ailleurs, Jules Michelet l'a dépeint en vrai poule mouillée, un page qui mérite le fouet.
Oui.
Mais il faut être honnête, disons-le, tout de go, Pierre Gatul, dans l'histoire, il passe pour le mauvais génie, il a une très mauvaise réputation. Alors, c'est vrai que cette exposition au château de Blois, qui était magnifique, vraiment, a montré un prince mécène, un prince artiste, un prince qui aimait les belles choses. Mais franchement, politiquement, il était toujours du mauvais côté. Hein.
Et c'est très intéressant de voir comment une légende noire se construit. Une légende noire se construit précisément donc après sa mort. Et cette mécanique de la légende noire a plusieurs ressorts. Pour commencer, il n'a pas de descendance masculine. Or justement, ce sont les fils qui ont pour charge de transmettre et de valoriser la mémoire. Donc personne ne prend en charge sa mémoire. La porte est ouverte à tous les détracteurs. D'autre part, cela commence très rapidement, puisque son oraison funèbre est prononcée par plusieurs hommes d'église, bien sûr, comme il se doit, bien sûr, et normalement, ces oraisons funèbres sont publiées. Vous avez cité les passages de celle de Jean-François Senault, oratorien, et cette oraison funèbre a été censurée. C'est-à-dire qu'elle n'a été interdite à la publication. Parce que justement, on y a dit des choses, ce que vous avez cité précisément, qu'on n'avait pas très envie d'entendre. L'image d'un Gaston conciliateur, épris de justice, l'image aussi de quelqu'un qui défend le bien public, ça fait grincer des dents.
Mais sur qui il pouvait compter? C'est le portrait d'un homme seul que vous faites. Il avait des soutiens quand même.
Bien sûr, parce qu'on n'est pas seul, mais quelques exemples. Tout d'abord, il ne faut pas l'oublier, il a sa clientèle. Bon, c'est absolument indispensable. Et là, la capacité d'action d'un prince se mesure à sa clientèle. C'est pour ça que Richelieu condamne à mort ceux qui ont trahi, ou bien place des espions dans la maison même de Gaston, qui s'en amuse beaucoup d'ailleurs. Et d'autre part, Gaston réagit, il contre-attaque, sans arrêt, sans cesse, et pas seul. Par exemple, pour son mariage, justement, comment fait-il alors que le roi et Richelieu tentent de faire annuler le mariage? Il tente de le faire annuler en lançant une procédure contre la famille de Lorraine, et notamment Marguerite, accusée de rapt sur la personne de l'héritier du trône de France.
Ah, c'est pas mal, ça.
Ah oui, c'est excellent. C'est tout simplement parce que c'est un motif d'annulation du mariage. Eh bien, Gaston, là, ne reste pas seul. Il en appelle au pape. Et Marguerite fait la même chose. Marguerite écrit directement au pape. Et là, Gaston tient bon. Il est résolu. Et Richelieu perd. Le pape lui donne raison. Le mariage est valide.
Pourquoi vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de réhabiliter la mémoire de Gaston d'Orléans? Parce que c'est vrai qu'il passe pour...
Il a été victime d'une injustice, aux yeux de l'histoire.
Il a eu une fille brillante, la grande mademoiselle, oui. C'est pas n'importe qui. Il n'y a pas eu de fils, mais parfois il vaut mieux une fille comme la grande mademoiselle qu'un fils crétin.
Alors la réhabilitation, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. Je pense que le plus intéressant, c'est de comprendre ce qu'il est, comment il réfléchit, comment il pense... Et justement, comment cette légende noire s'est construite, on construit un personnage et comment on le déconstruit. Tout à l'heure, vous avez cité Jules Michelet. Bien, justement, Jules Michelet, comme les historiens du XIXe siècle, sont très attachés à placer Richelieu comme un visionnaire. Un visionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui construit l'État moderne avec rationalité, un État centralisateur, l'État que connaissent les contemporains du XIXe siècle. Par conséquent, il paraît évident de rejeter dans le camp des vaincus et des proscrits les Gaston d'Orléans, ces rebelles qui, eux, avaient autre chose en tête et qui refusaient cette voie de l'absolutisme. C'était tout à fait logique, d'autant plus que les mémoires, je reviens aussi à votre question, ça me revient, ceux qui défendent Gaston d'Orléans, leurs mémoires ne sont absolument pas publiées.
Oui, c'est ça. Ils sont censurés, eux aussi.
Mais bien sûr. Par contre, les mémoires du cardinal de Retz sont publiées parce que justement, il règle ses comptes avec Gaston d'Orléans.
Mais écoutez, c'est passionnant. Je crois qu'on regardera maintenant sous un autre œil, d'un autre œil, la vie et l'œuvre de Gaston d'Orléans. Je rappelle votre livre, Gaston d'Orléans entre mécénat et impatience du pouvoir, paru aux éditions Champvallon, ainsi que le livre avec Jean-Marie Constant, Gaston d'Orléans, prince de la liberté, paru chez Perrin, qui nous a permis d'enrichir ce récit. Et puis, le catalogue de cette fabuleuse exposition que j'ai eu la chance de voir en 2017, au château de Blois. Et on salue Elisabeth Latrébolière, qui est la conservatrice du château de Blois et qui fait un travail formidable.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre nous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dans des chroniques qui feront date, assurément. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Toute cette semaine, évidemment, on commémore ou on célèbre, c'est selon ce qu'on pense, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Il y a tout juste 200 ans, c'est le principe d'un bicentenaire. Chaque jour,
c'est bien
Clémentine...
Stéphane, quel talent.
Lui redonnez vie. Et aujourd'hui, en ce mardi 4 mai, vous nous parlez des petites manies de Napoléon.
Napoléon, une ne fumait pas, lui, il prisait beaucoup. Et plus exactement, il respirait le tabac. En 1808, il consomma 42 kilos de tabac à priser. Il utilisait un tabac très gros et quand il se baladait dans Saint-Cloud, il le faisait manger, il le donnait à manger aux gazelles qui aimaient bien ça. Je vous dis 42 kilos, ça pouvait être un petit peu moins parce que généralement quand vous prisiez à l'époque, vous en proposiez toujours à tout le monde autour de vous, y compris aux dames, il y a des dames qui prisaient. Et Napoléon a offert des quantités absolument extravagantes de boîtes à priser, oui, à son entourage.
C'était un moyen de propagande, d'ailleurs.
En plus, parce qu'il y avait,
il y avait son portrait.
Il y avait son portrait.
Et donc, en fait, c'était de la communication par les objets, des goodies, comme on dit aujourd'hui.
Et puis, attendez, parce que c'était, non seulement il y avait son portrait, mais généralement, c'était des boîtes très, très ouvragées, ornées de diamants. C'était en plus extrêmement précieux. Alors, je vous disais qu'il avait fumé 42 kilos de tabac en 1808. Il fait comme tout le monde. Napoléon, au bout d'un moment, il se dit, il faudrait quand même que je réduise ma conso. Et on passe à 18 kilos en 1812. Donc, apparemment, il faisait des efforts pour moins priser. Mais surtout, ce pourquoi est très connu, Napoléon, c'est pour le fait d'avoir été un grand maniaque de la toilette. Il adorait se laver à grandes eaux, à tel point qu'au moment de la seconde abdication, il avait un objet qu'on appelle une athénienne. Vous savez ce que c'est qu'une athénienne, Mathieu? C'est une sorte
une femme
de...
qui habite Athènes.
Ah, vous avez raison.
Oui, ça, c'est une femme qui habite à Athènes.
Ah,
je ne sais pas ce que vous voulez
dire.
L'humour
du primate, bien sûr, toujours. Oui, oui. Non, non, pas du tout. Eh bien, une athénienne, c'est une pièce de mobilier. C'est un magnifique lavabo en argent sur trépied, à col de cygne, avec une aiguière du même métal. Et celle de Napoléon avait été faite par Biennet, qui était le principal artisan de l'époque, qui a fait toutes sortes de maroquins ministériels, de fourreaux, d'épées, etc.
Qui habite le Maroc.
Exactement, non, voilà, c'est ça.
C'est pareil.
Alors, bref.
Je vous taquine, Stéphane.
Non, mais parce que des gens peuvent vous croire.
Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Vous
avez donc, un Marocain, c'est un portefeuille et c'est de Maroc, parce que le Maroc a évidemment une spécialité dans le travail du cuir. Donc, son valet de chambre, Marchand, au moment de la première abdication, va rechercher cette Athénienne à l'Élysée parce qu'il savait à quel point il manquerait à Napoléon en exil de pouvoir se laver à grandes eaux avec son Athénienne. Mais il y a surtout une chose pour laquelle il était absolument maniaque, c'était son hygiène dentaire. Il se curait, on a plusieurs nécessaires dentaires de Napoléon, il se curait les dents avec un cure-dent en buis, ensuite il se les brossait avec une brosse à dents trempée dans de l'opia pour le dentaire n'est pas de l'opia à base d'opium, mais avec de la rose et du cubeb, une épice orientale. Il se rinçait la bouche avec de l'eau de vie mélangée à l'eau. Il se raclait la bouche avec un racloir d'argent ou de vermeil. Ça, pour la bouche, pour les dents, il était absolument maniaque. Après quoi, naturellement, chose là aussi bien connue, l'eau de Cologne. Il s'aspergeait de l'eau de Cologne. La formule...
40 litres de...
Et ça dépend des années, même plus. Hein. Même plus, on a trouvé une facture aux archives qui datant du mois d'octobre 1808 où il avait été commandé 72 bouteilles d'eau de Cologne. Alors il les a peut-être pas consommées sur une.
C'est Farina nous a expliqué Elisabeth de Feydeau.
Exactement. Et il avait fait faire des flacons longs et plats qu'il pouvait mettre dans ses bottes et transporter comme ça. Et même à Sainte-Hélène, il disposait d'un ersatz de son eau de Cologne. C'est son fidèle Mamelouk Ali qui a déployé des trésors d'ingéniosité pour essayer de dénicher dans cet îlot du bout du monde, où il n'y avait quand même pas grand-chose, citron, bergamote, néroli, pour essayer de fabriquer une eau de Cologne à Napoléon. Ça, c'était très important pour lui, et on peut le comprendre, parce que l'eau de Cologne, ça vous apporte une sorte de shoot, de fraîcheur extraordinaire et unique à l'eau de Cologne.
Mais il ne se lavait pas comme éveillé, c'était pour couvrir les odeurs.
Bien sûr que si, il adorait les bains, il prenait des bains. Quand il était heureux, quand il était bien dans sa peau, il prenait un bain. Quand il a appris à Pulchtuc qu'il venait d'avoir un fils Léon, qui était la preuve qu'il était capable de procréer, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a pris un bain et il chantait du bel canto dans son bain, et après il se faisait frictionner à l'eau de Cologne. Vive l'empereur! Alors souvent, l'empereur avait d'autres petites. Mais d'autres petites habitudes, je ne sais pas si vous les connaissez, celle-là. Souvent, il tailladait les bras des fauteuils avec des canifs. À l'extérieur, quand il marchait, il fouettait la terre avec sa cravache. C'était ses petits tics. Hein. Quand il marchait, Il marchait rarement sans s'appuyer sur le bras de son interlocuteur, de façon assez amicale, comme ça. Puis alors, il avait bien d'autres manies, bien sûr. Celle qui est très connue, c'est de mettre sa main dans son gilet.
Ça, on sait pourquoi ?
Oui, parce qu'il n'y avait pas de poche à l'époque.
Exactement.
C'est uniquement, mais il ne savait pas où mettre sa main.
C'est pas pour son ulcère, hein. Ouais. Ah oui. C'est parce qu'on ne savait pas où mettre sa main.
Et on ne pouvait pas, vous ne pouviez pas vous tenir comme ça les bras ballants, ça ne se faisait pas.
Comment faisaient les autres alors ?
Eh bien, tout le monde faisait pareil. On mettait la main dans le gilet.
C'est le seul qui a été représenté.
Regardez ces contemporains, il y a quantité de portraits de messieurs en pied. On les voit mettre la main dans leur gilet. Voilà.
Ils faisaient tout très vite, on peut le dire, à l'inverse de vous.
Et oh non, mais dites donc, un bourre-pif en pleine paix, non, c'est très désobligeant. Alors, très chers auditeurs, j'en termine, puisque me voilà poussé tel Murat à Pratzen par mon adversaire. Oui, j'allais vous dire que son plat préféré était le poulet frites, et en effet, il était très rapide. Maringo. Il le mangeait en 20 minutes, pas plus. Il avait une bibliothèque de campagne, de 1000 livres, il l'emportait partout. Quand le livre lui plaisait pas, paf, il le balançait par la fenêtre, et s'il était près d'un feu, il le mettait au feu. Enfin, Napoléon trichait presque toujours aux cartes. Dans le bateau qui l'emmenait en Égypte, où ses tricheries agacèrent fortement l'un de ses partenaires, Bonaparte rétorqua par cette phrase qui fera office de conclusion à ma chronique du jour. Je ne triche pas, tout simplement, je ne laisse jamais rien au hasard.
Merci Clémentine. Demain, pour la suite de
Je ne sais pas si je vais revenir demain. Hein. Alors moi, dans ces conditions,
vous avez
là.
Un contrat, hein.
Alors demain, je vous parlais, évidemment, de deux éléments vestimentaires qui caractérisent Napoléon, c'est-à-dire le bicorne et la redingote grise.
Voilà. Bien sûr. Parfait.
Je reprends votre citation, lui non plus, ne triche pas, simplement il ne laisse rien au hasard. On le découvre dans le quiz chaque jour. Stéphane Bern vous affronte. Dans Berne's Viola, un quiz sérieux et éminemment historique. Parce que nous ne sommes pas là pour rigoler, nous sommes là pour apprendre. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Il est des personnages historiques pour qui il est très compliqué d'avoir une date de naissance. Pour Amanda Lear, par exemple, c'est un mystère total. Mais Isaac Newton aussi. Il est né officiellement en 1642 pour les Anglais, mais en 1643 pour nous, les Français. Vrai ou faux ?
Je crois que quand on a fait son portrait d'histoire des pommes, c'est ce qu'on a dit déjà dans cette émission. Je crois que c'est vrai.
Pour la deuxième fois, Stéphane Bern est interrogé sur un point
qu'on a déjà vu dans l'émission.
Oui, non seulement que vous avez dit vous-même, puisque c'était votre récit.
Oui.
Alors vous dites,
c'est
attention,
vrai.
Il ne faut pas se tromper là.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Vous avez gagné.
Tant Stéphane Bern, Clémentine, il a remporté la question. Bravo, vrai. La réforme papale du passage du calendrier julien au calendrier grégorien ne s'est pas faite dans tous les pays au même moment.
Bien
vous
sûr,
aviez dit,
bien sûr.
Le pape Grégoire XIII a décidé que après le jeudi 4 octobre 1582, il y a le vendredi 15 octobre 1582. 11 jours ont disparu, mais tout le monde n'a pas appliqué la réforme en même temps. Du coup, ils ont eu deux calendriers identiques, mais adoptés à des moments différents.
Mais votre histoire n'a aucun intérêt. Vous auriez mieux fait de raconter comment Ulm, Kutuzov et le général Mack se sont donné rendez-vous au même jour, à la même heure, mais n'y sont pas arrivés parce que l'un était dans le calendrier julien et l'autre dans le calendrier grégorien. C'est plus marrant comme histoire.
Mais que ne soufflez-vous pas ça à la personne qui conçoit ce quiz au lieu de me le dire ?
Parce que personne ne veut m'écouter ici.
Allez le voir. Je vous donnerai son numéro, il peut être très gentil. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le marathon, c'est la distance qu'a parcouru un messager grec du nom de Philippides pour annoncer en 490 avant Jésus-Christ la victoire contre les Perses lors de la bataille de Marathon, justement. Aujourd'hui, un marathon, c'est 42,1 km. Une distance que l'on doit à la famille royale de Suède. Vrai ou faux ?
Non, c'est faux, c'est à la famille royale d'Angleterre. Non, je crois que c'est grec, oui, d'Angleterre. Pour moi, c'est d'Angleterre.
Vous avez gagné !
Vous avez gagné et malheureusement, Stéphane se voit retrancher un point.
Oh non,
parce qu'il est intervenu.
Non, mais attendez.
Il est intervenu.
Ah, bah oui.
Non.
Durant votre question, pour qui plus est apporter une mauvaise réponse.
Qui en plus voulu m'induire en erreur, parce que c'est ça son but.
Vous avez dit la famille royale d'Angleterre. Alors là, non, Stéphane.
C'est en Angleterre, absolument. Voilà, parce que c'est. Je crois que c'est. Autour de la reine Victoria ou de son fils.
Oui,
son petit-fils.
Et non pas en Grèce, comme vous l'avez
dit,
mais Stéphane.
Je savais que c'était à cause d'une famille royale et non pas de la famille royale.
Si on distingue plus les familles royales et qu'on mélange les familles royales grecques et anglaises, on ne sait plus où on est. C'est donc effectivement un caprice de la famille royale d'Angleterre, puisque c'est la distance entre la pelouse du château de Windsor jusqu'au White City Stadium. Les enfants de la famille royale voulant voir le début de la course. Édouard VII en a décidé ainsi en 1908 lors des Jeux de Londres. Voilà pourquoi un marathon, ça fait 42,195 km. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Il est temps de vous ressaisir puisque vous avez 0 point, je le rappelle.
C'est pas vrai, j'avais un point tout à l'heure.
Oui, mais
il est passé où ?
1 moins 1.
Mais comment, de quel droit ?
1 moins 1, nous sommes à 0.
Chers auditeurs,
le doute n'est pas permis. Vous,
voilà. Allez sur le compte Instagram de Mathieu Noël et écrivez-lui que c'est un escroc. Parce qu'il n'a pas de Facebook, il n'a pas de Twitter, il n'a qu'un compte Instagram. Pourrissez lui la
c'est
vie.
Vrai, c'est vrai.
C'est la seule.
Vous pouvez toujours, mais vous
allez faire un appel un peu plus vivant, hein, genre 18 juin, appel à tous mes fans nombreux. Allez, châtier.
Que tous vos fans, appelez tous vos fans
ce
sur Instagram.
Félon, ce galon,
des centaines de milliers.
Non, ne lui donnez pas de like.
Cette charogne.
C'est tout ce que je demande.
Il va me priver de like. Les historiens, Stéphane, ont plusieurs phobies. Se tromper de date, écouter trop longtemps Laurent Deutsch et le déboulonnage de statues. En 2014, les services de la municipalité de la ville de Vichy ont retiré une statue de bronze du maréchal Pétain en la place du 10 juillet. Mais là, personne n'a trop osé protester. Vrai ou faux ? Vous avez entendu parler de cette histoire,
mais ça n'est quelque chose.
Non, il
n'y
a pas de statue
Vichy.
De Pétain à Vichy.
Qu'est-ce que c'est que cette
histoire,
de vous le dire. Vraiment, non.
Il n'y a pas de statue du maréchal Pétain à Vichy.
Il n'y en a nulle part. Il en restait une dernière près de Verdun, parce qu'il est quand même le vainqueur de Verdun.
Il n'y a
et
pas
elle
de
a été également saccagée.
Vous en êtes certain, Stéphane.
Ah oui,
parce que je rappelle que vous êtes à zéro hein, pour
l'instant. Oui, mais tant pis si je reste à zéro, mais au moins, ça, je ne peux pas supporter l'idée.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse. Mais pourquoi cette question sur une statue du maréchal Pétain qui aurait été déboulonnée à Vichy ? L'information était un fake, mais c'est une information qui a été publiée par un site parodique belge. Le problème, c'est que non seulement elle avait été reprise par Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, dans l'absolu rien de grave, vu son auditeur restreint, mais plus étonnant, l'info avait été reprise par Historia.fr. La mairie de Vichy a dû officiellement démentir l'existence de cette statue. Question numéro 4 pour vous. Vous avez un point, Clémentine, un point. Nous sommes donc à égalité, si vous calculez bien. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Certains hommes politiques ont écrit des ouvrages historiques. François Bayrou sur Henri IV, Dominique de Villepin sur Napoléon, Edgar Faure écrit sur Turgot. Eh bien, Jean Castex, en 2001, a écrit un ouvrage sur Charles de Bath de Castelmaure, dit d'Artagnan. Vrai ou faux ?
Ah oui. Bah, c'est bien sa région en même
Prade.
Temps. Hein oui,
mais
c'est
la question est pour vous, Clémentine. Hein
moi, je ne réponds plus maintenant.
Il est de Prades.
Sinon,
je connais bien, ce coin-là. Donc, mais alors, est-ce qu'il a... Oui, écoutez, de toute façon, les hommes politiques aiment bien montrer qu'ils ont un vaste champ de compétences et trouver quelques petits historiens en histoire qui écrivent leurs bouquins à leur place. C'est quand même une chose assez fréquente. Sur D'Artagnan, il aurait écrit... Pourquoi pas, mais il a le temps d'écrire, il aurait
écrit en 2001,
c'est en 2001, il a peut-être le temps. J'y crois pas trop,
on est en 2017,
mais je n'y crois pas trop à la fois, mais non, j'y crois pas trop. Il aurait écrit un truc sur plutôt le, comment s'appelait-il, le grand seigneur de cette région-là, comment l'appelait-on ?
D'Artagnan.
Non. Moi, je pense qu'il a pu écrire quelque chose, mais pas sur D'Artagnan.
Il a pu écrire quelque chose. Quelle est votre réponse, Clémentine ?
Je dis non.
Vous dites non.
Vous avez...
Vous avez gagné le quiz, vous avez tout gagné, Clémentine.
Il aurait pas
Clémentine.
Écrit sur Phébus, plutôt.
Mais pourquoi cette question ? En 2017, Jean Castex a écrit un livre, mais pas une biographie de D'Artagnan. Son titre de ce livre, « La ligne de chemin de fer de Perpignan à Villefranche-de-Conflans
bah, ».
Un ouvrage de référence sur ses 41 km de voies ferrées.
Bien sûr, ils ont failli la supprimer, cette ligne.
Et
c'était
voilà.
Un vrai scandale.
Un train qui a été un des premiers à bénéficier d'un système de frein aérostatique. Et ça, vous ne
bien
le saviez
sûr.
Pas.
J'ai pris ce train.
Alors
et
maintenant,
oui.
Comme en régie, ils vont se rendre compte qu'on m'a enlevé un point abusivement. On va être à égalité. Vous allez pouvoir
non,
poser votre cinquième
pas
question.
Pas du tout, parce qu'on me signale que pour une fois, on n'a plus le temps. Et donc, vous avez perdu, Stéphane. C'est
okay,
vraiment
salut.
Trop bête.
Je peux y
le
aller.
Le chrono est contre vous. Victoire de Clémentine.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui s'écoute jusqu'en Californie.
Et oui, Stéphane, et c'est vrai, c'est une séquence courrier des lecteurs. On embrasse Marie qui nous écoute depuis Los Angeles et qui a un message pour Olivier Pouls qui s'était permis ici de critiquer la culture des avocats en nous disant qu'il fallait 1000 litres d'eau pour produire 1 kilo d'avocats. Elle vous pose, Olivier, cette question malicieuse, une colle. Hein. Je sens que nous avons affaire à une insolente flexitarienne. D'après vous, combien faut-il de litres d'eau pour produire 1 kilo de viande de bœuf que vous chérissez tant ?
Oh, 1 000 litres.
15 000 litres. Bravo, Marie, pour vous récompenser. Je vous offre 3 princes aujourd'hui.
Oui, mais pas des princes charmants, Mathieu. Des princes rebelles.
C'est mieux.
Après Gaston d'Orléans, qui était déjà assez rebelle, je me penche sur le destin d'un prince très rebelle. Un prince de la pop, Prince.
Ça a dû vous faire un choc venant d'André Assari.
Détrompez-vous, Mathieu, je connais Prince mieux que vous ne l'imaginez.
Je ne veux pas tout savoir non plus. De mon côté, je vous parlerai d'un prince rebelle que vous ne connaissez que trop. Vous occupez d'ailleurs une majeure partie de votre temps à l'antenne à le fustiger. Mais le prince Harry mérite-t-il vraiment un tel acharnement? Je brosserai son portrait, disons à 99% vrai.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs, qui sont un peu les princes charmants d'Historiquement Vôtre. David Castello-Lopez qui nous raconte les origines d'un produit qui a sauvé beaucoup d'enfants boutonneux.
Tout à fait, c'est très triste quand on a plein de boutons. Et c'est un des seuls médicaments un peu miraculeux qui existe. C'est un peu miraculeux, il y a des défauts, on en parle.
Mais pas sans conséquence.
Pas sans conséquence, mais c'est quand même miraculeux de ce point de vue-là, et ça c'est quand même assez agréable.
Et ça s'appelle le Roaccutane.
Le Roaccutane, il faut dire le nom.
Le Roaccutane, c'est vrai qu'on l'en a tellement pris qu'on a presque oublié que tout le monde ne le connaissait pas. Ouais. À vos côtés, David, qui voilà Stéphane, qui voilà, mais c'est Olivier Pouls.
Lui-même.
Lui-même, notre expert, notre chef.
Oui, et j'ai décidé de vous parler d'un plat finalement assez moderne. C'est souvent, on explore la gastronomie d'Antonin Carême, d'Apicius ou de très vieux chefs. Là, c'est d'un chef bien contemporain, contemporain malheureusement, il est décédé il y a un peu plus d'un an. Mais enfin bon, on l'a connu, enfin en tout cas, je l'ai connu.
Oui.
Et c'est de Pierre Troisgros et son fameux saumon à l'oseille.
J'aurais dit que c'était un très très vieux plat, le saumon à l'oseille.
Non, moi aussi, je pensais que depuis la nuit des temps,
on mangeait du saumon à l'oseille.
Ouais.
Le mot de la fin, Stéphane, c'est votre séquence. Cette séquence où vous nous révélez l'origine d'un mot ou d'une expression aujourd'hui.
Eh bien, prendre la poudre d'escampette. Mais elle vient d'où, cette poudre?
C'est vrai. Et la poudre de perlimpinpin aussi, vous nous ferez un jour?
Un jour.
Oui, chaque chose en son temps, vous avez raison.
Je sais que vous aimez beaucoup la poudre, mais de là à les vouloir tout en même temps...
Stéphane,
la cocaïne, donc je ne sais pas si ça compare.
J'ai bien peur que dans l'esprit de Stéphane, ça soit ça, effectivement.
Parce mais que vous savez, nous, on
les
sait
gens
pas
à la, non, à la radio, bien sûr. C'est tous les mêmes. Hein.
Oui,
drôle de milieu. Tout de suite, Stéphane chausse ses talonnettes, déboutonne un peu sa chemise Alain Figaré et nous livre le portrait étonnant d'un artiste disparu trop tôt, Prince.
Europe 1, 16h-18h, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Prince, un peu prétentieux comme nom de scène, hein?
Oui.
Bah pas du tout. John Nelson a choisi pour son fils le nom de son groupe de jazz, Prince Rogers Trio. Prince Rogers Nelson naît donc le 7 juin 1958 à Minneapolis, dans le Minnesota. Le petit prince, il ne dépassera jamais le 1m57, sauf avec ses talons de 12 cm, découvre la musique en famille. Lorsque John joue du piano, Mattie, la mère, chante parfois avec lui. Alfred, le grand frère, l'initie à James Brown. Le parrain de la soul, Monsieur Sex Machine, aura effectivement une grande influence dans l'œuvre princière. Prince raconte avoir composé son premier titre, Funk Machine, à l'âge de 7 ans. À la maison, les cris couvrent la musique. Ses parents se déchirent. Quand la star de la télévision américaine, Oprah Winfrey, demandera à Prince quelle est la scène la plus autobiographique du film Purple Rain, il répondra « Celle où je regarde ma mère pleurer ». Le couple divorce en 1968. C'est un soulagement pour Prince. Un soulagement de voir que son père est parti en laissant son piano. Ballotté d'un foyer parental à l'autre, déficient des deux côtés, Prince conseillera, avec son ironie légendaire teintée d'humour noir, « N'abusez pas les enfants ou ils finiront comme moi » dans sa chanson « Papa ». À l'école, ce n'est pas mieux. Ses camarades le traitent de PD, de freak ou de punk. Il passe des heures dans la classe de musique où il se réfugie. L'ado en vrac est recueilli chez un de ses copains de classe, André Anderson, avec qui il squatte les disquaires de Minneapolis. Au sous-sol de la maison, les deux gamins montent leur premier groupe, Grand Central Corporation. André est à la basse, Prince joue de la guitare électrique offerte par son père. Sous la houlette d'un producteur local, Pepe Willie, démarre les premiers enregistrements en studio. Prince profite de l'absence du groupe au pause-déj pour toucher à tous les instruments. Batterie, piano, guitare. La voix, c'est moins évident, mais le travail finira par payer. Il est repéré par Owen Husney, patron d'une agence locale de pub, qui lui fait signer son premier contrat et le présente comme le nouveau Stevie Wonder. Ensemble, il convainc Warner Bros. Prince a 18 ans et signe un contrat pour 3 albums. Le premier, For You, sort en 1978. Le second sort dès l'année suivante. C'est ça le rythme de Prince, un album par an. En 1980, à Los Angeles, il joue en première partie des Rolling Stones. Consécration ? Pas forcément. C'est même un bide total. Le public des Stones n'est pas prêt pour lui. Frustré, Prince repart aussitôt, mais ne baisse pas les bras. Il dort peu, se nourrit à peine et travaille sans relâche. Ses collaborateurs font les frais de son exigence et de son perfectionnisme. Mais le résultat en vaut la peine, les albums cartonnent. Prince cherche, touche à tout et veut toucher le monde en faisant de la musique universelle. Suis-je noir ou blanc, chantera-t-il dans Controversy. Il brouille les pistes. Sa personnalité est éclectique, comme sa musique. Il utilise différents pseudos. Jamie Starr, Alexandre, Nevermind, Christopher ou encore Joe Coucou.
Joe Coucou. Coucou.
Ou encore Joe et Coco. Prince est un artiste en ébullition, en constante évolution. En témoigne son style. Si son costume mauve est gravé dans nos mémoires, Prince est d'abord la coupe afro et les pattes def, puis la coupe porc-épic, le trench clouté, les bottines à talons, encore les cheveux longs et bouclés et l'imperméable en cuir vintage. Une exubérance scénique qui cache en réalité une timidité excessive. « Suis-je hétéro ou gay ?» chante aussi l'artiste. Dans les années 90, il rencontre la chanteuse Ophélie Winter lors d'une soirée en boîte à Paris. Ils passent la nuit ensemble, mais rien ne se passe.
Ah.
À Los Angeles, où elle le rejoint la semaine suivante, rebelote. Elle lui pose alors la question. « Je vais te montrer comme je suis gay », lui répond-il en l'emmenant dans la chambre. « Gay Prince, tu parles, il est super hétéro et super sexy. On est restés 3 ans ensemble », racontera-t-elle. Toujours délicate. Elle figure dans la longue liste de ses conquêtes aux côtés de Dennis Matthews, dite Vanity, Susan Moncey, Jill Jones ou encore Susanna Melvoin. Ces chanteuses ont partagé la scène et le lit du Prince qui n'hésite pas à mêler vie privée et vie professionnelle. Le sexe, il le met beaucoup dans ses chansons et sans tourner autour du pot. Il n'hésite pas à décrire crûment la masturbation féminine dans Darling Nikki, l'orgasme et les orgies dans Uptown ou encore les fellations dans Head, de quoi choquer moi-même et les mères de famille de l'Amérique puritaine. Prince inspire l'autocollant Parental Advisory sur les pochettes de disques et n'hésitera pas à poser en tenue d'Adam sur la pochette de Love Sexy. En 1984, Prince devient célèbre internationalement avec Purple Rain. L'album se vend à plus de 20 millions d'exemplaires. La chanson génère près de 70 millions de recettes, ainsi qu'un Oscar. Et le film semi-autobiographique marque la génération X qui se rue dans les salles obscures. Prince se lance dans la conquête du monde et enchaîne les tournées aux quatre coins du globe. En 1987, il loue un somptueux appartement avenue Foch, à Paris, mais retrouve souvent ses studios d'enregistrement à Paisley Park, près de Minneapolis. C'est là-bas qu'il joue quelques minutes avec Miles Davis, qu'il admire. S'il n'est pas jazzman, Prince partage avec lui le goût du risque et de l'impro. Après avoir signé la BO de Batman et de Tim Burton en 1989, il donne un nouveau souffle à sa musique avec le groupe The New Power Generation, qui connaît un immense succès. Quand sa relation avec Warner prend l'eau, son esprit libre n'est pas compatible avec la rigidité de l'industrie musicale, il prend ses distances, se tourne vers les labels indépendants et se renomme avec un symbole imprononçable que l'on surnomme le Love Symbol. Côté Love, justement, il épouse en 1996 Maty Garcia, qu'il a rencontrée lors d'une tournée. Elle tombe enceinte, mais leur bébé meurt prématurément. Après ce tragique événement, Prince devient témoin de Jéhovah. Fervent prosélyte de sa nouvelle religion, il ira jusqu'à faire du porte-à-porte. Cette même année sort l'album Emancipation. Quand son contrat se termine avec Warner en 2000, il récupère enfin son nom. En 2007, il donne une prestation légendaire lors de la mi-temps du Super Bowl. Parce qu'il ne faut pas oublier que Prince est une bête de scène dont l'énergie déborde lors de ses shows XXL. Le public se régale lors de son concert à Atlanta le 14 avril 2016. Son meilleur, dira-t-il 2 jours plus tard. Son dernier aussi. Une semaine après, alors âgé de 57 ans, il est retrouvé mort dans sa propriété de Paisley Park après une overdose de fentanyl qu'il prenait pour ses douleurs à la hanche. Dans Sometimes It Snows in April, l'une de ses plus belles chansons, Prince chantait « Parfois je souhaite que la vie ne se termine jamais et toutes les bonnes choses, comme on dit, ne durent jamais. »
Historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Prince, nous sommes avec celui qui ne s'est toujours pas remis de sa mort il y a 5 ans, Fred Goetti, qui lui consacre le dernier numéro de Jazz Magazine. Bonjour Fred.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Bonjour Frédéric Goetti, vous êtes le directeur de Jazz Magazine dont le dernier numéro vient de paraître. Un numéro spécial entièrement consacré à Prince, 5 ans presque jour pour jour après sa disparition. Prince a passé sa vie à bouder les étiquettes. Est-ce que celle de Prince Rebelle lui va bien à votre avis ?
Elle lui va, mais alors comme un gant. Enfin, j'en sais beaucoup moins que vous sur Prince, mais j'ai une petite histoire justement. En juillet 79, à ses débuts, hein, Prince a enregistré 9 chansons avec les musiciens qui l'accompagnaient alors sur scène, mais il n'avait pas l'intention de les sortir sous son nom. Et il avait pensé à un nom de groupe, et tenez-vous bien, ce nom de groupe c'était The Rebels, les Rebelles. Oui. Bon, il a finalement opté un peu plus tard pour The Revolution. Ça claquait pas mal aussi. Bon, je vous rassure, ces 900 chansons sont jamais sorties, elles sont dans ses fabuleuses archives. En tout cas, Prince, oui, mais ça je suis d'accord, a toujours été un rebelle, oui, ne serait-ce que dans sa manière de s'opposer à l'inertie, à la rigidité, vous l'avez dit tout à l'heure, des maisons de disques. Il voulait enregistrer tout le temps, comme les musiciens de jazz. Cela dit, encore plus important, c'est qu'il a toujours cherché, et ça c'est très rebelle aussi, à faire tomber les barrières musicales, à jouer du funk, de la soul, du blues, des musiques qui dans son pays d'ailleurs vont de soi, pour un musicien américain, mais aussi, et ça va moins de soi, de la pop, du rock, à faire des solos de guitare spectaculaires, flamboyants, psychédéliques, à faire un peu revivre l'esprit de Jimi Hendrix en quelque sorte. Parce que n'oubliez pas qu'aux États-Unis, bah, les pionniers du rock'n'roll, bah, ils s'appellent comment ? Chuck Berry, Little Richard, Sister Rosetta Tharpe, des artistes afro-américains. Mais aux États-Unis, bah on ne jure que par le certes génial et immense Elvis Presley. Mmh. Alors, il y a une chanson assez peu connue de Prince qui s'intitule « Don't play me ». En gros, ça veut dire « me la faites pas ». Hein. Elle commence par cette phrase « Don't play me, I'm the wrong color and I play guitar. Je suis de la mauvaise couleur et je joue de la guitare. » Alors, vous comprenez tous les sous-entendus qu'il y a dans ces paroles. Si c'est pas une phrase d'artiste en colère et de rebelle, ça, je m'y connais pas.
Et Fred, sur le côté rebelle, mais d'un point de vue purement musical, l'essentiel pour Prince, vous le citez dans votre édito, c'était de créer en toute autonomie sans que personne vous dise quoi faire, de quelle façon et pourquoi. Cette liberté à tout prix, vous l'avez dit, c'est plutôt celle d'un musicien de jazz que d'un artiste pop, catégorie dans laquelle pourtant on le range. Dans quelle catégorie on doit ranger Prince ?
Bah, oui, c'est vrai qu'il s'est toujours battu, finalement, pour la liberté d'expression. Ça, c'est vraiment, ça a été son combat permanent jusqu'à son dernier souffle. Et il a pu vraiment aller très très loin dans ce domaine, finalement, dans le domaine de l'expression de la liberté musicale, grâce à son phénoménal succès en 84. Hein, Stéphane l'a rappelé, avec Purple Rain, il a vendu plus de 20 millions d'albums, donc ça lui a donné, en tout sens, les moyens de cette liberté. Et lui, la liberté, c'était quoi ? C'était enregistrer quand il voulait, où il voulait, avec qui il voulait, et surtout ce qu'il voulait, la musique qu'il souhaitait. Alors si ça sortait, tant mieux. Si ça sortait pas, tant pis. Il rangeait les bandes dans ses archives, il s'était exprimé, il avait matérialisé un peu ce qu'il avait en tête. En fait, c'était l'essentiel pour lui. Et c'est pour ça que finalement, la face cachée de l'iceberg musical, en quelque sorte, chez Prince, bah, elle est énorme et on ne mesure pas encore l'immensité de son œuvre. Donc, finalement, Prince, il défiait toutes les catégories. Et voilà, la liberté, c'était important pour lui, même s'il a toujours joué le rôle de l'artiste un petit peu opprimé, au point d'ailleurs il s'était tatoué à une époque sur la joue le mot slave, esclave. C'était de la provocation, mais ça a fait beaucoup réfléchir à l'époque.
Cela dit, c'est vrai qu'il a gagné chèrement sa liberté artistique, puisqu'il écrit, il chante, il produit, il joue de la musique, il fait tout, au fond. C'est ce qui lui a permis d'être audacieux, de prendre... C'est lui qui prenait tous les risques, en fait. Hein. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a, Fred Goetti, de plus audacieux chez lui ? C'est d'aller de traverser les frontières musicales ?
Oui, bien sûr, et j'irais aussi, comment dire, ce besoin à la fois intellectuel et viscéral de vouloir toujours se remettre en question. Toujours, toujours. Ça, c'est sans doute quelque chose qu'il a hérité d'un musicien de jazz qu'il admirait beaucoup, qui était Miles Davis. Faut pas oublier qu'en 93, Prince est mort déjà une première fois. Il s'est auto-déclaré mort, et il a passé, vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 7 ans à jouer sous un nom de symbole imprononçable. Ouais. Et ça, c'est de la folie. C'est plus qu'audacieux.
C'est du suicide commercial, presque.
Voilà. C'est un suicide commercial et artistique. Alors, il avait besoin de passer par là, sans doute, pour se retrouver un peu plus en paix avec lui-même. Et d'ailleurs, quand il a repris son nom, parce qu'en 2000, il a décidé de le reprendre, il est redevenu peut-être plus populaire que jamais. Mmh. Alors, ses 10 se vendaient moins, mais par contre, les concerts, ça faisait un malheur, ça cartonnait et était plein tout le temps.
Et Fred, on dit que c'est un prince rebelle, c'est un prince un peu chiant aussi, non ? Dans le privé, un vrai contrôle fric, comme on dit. Il était tyrannique avec ses proches, ça lui a valu des différends avec ses maisons de disques aussi, c'était pas quelqu'un de facile.
Ouais, ouais. Alors avec ses proches, je sais pas. On était assez proches, lui et moi, mais non, il a jamais été très assez tyrannique, non. Non, bon. En même temps, est-ce que vous en connaissez beaucoup des génies qui sont pas un peu, beaucoup, voire même passionnément ou à la folie tyrannique? Non,
si, bah, Stéphane Bern, c'est un génie, puis il est sympa la vie. Ça arrive.
Je suis pas un génie, ça se saurait.
J'allais citer plutôt, moi, je sais pas, Stanley Kubrick, votre ami qui est Jarrett, Mathieu, Orson Welles, James Brown. Eh oui, bah, tous les grands créateurs, hein, n'oubliez
ils
pas quand même, ils sont obsédés par l'idée du contrôle, effectivement.
Mmh.
Et rien, absolument rien ne doit leur échapper. Tout doit passer par eux.
Il y a une question qui me taraude parce que, bon, vous connaissez bien cet univers. On compare souvent Prince et Michael Jackson, qui sont deux légendes qui sont nées la même année, en 58.
Ouais,
on a pu
58.
En faire des rivaux. Est-ce que, on peut les comparer ou pas? C'est une rivalité qui est réelle ou qui s'est construite, élucubration des médias?
Les deux, mon capitaine. Je dirais qu'il y a une anecdote qui est assez amusante. En 1983, donc avant que Prince ait un succès phénoménal comparable à celui de Michael Jackson avec Purple Rain, Prince est entré dans le bureau d'un grand producteur de sa maison de disques qui s'appelle Ted Templeman, qui était le producteur de Van Halen. Vous voyez, donc c'était un monsieur qui avait beaucoup de disques d'or accrochés à son mur. Et il lui a demandé un conseil. Il lui a dit, à votre avis, puisque vous êtes un producteur qui a du succès, qu'est-ce que je dois faire pour dépasser Michael Jackson, pour être numéro un, pour lui piquer sa place? Et là, Ted Templeman lui a dit, bah, vous devriez faire comme lui, vous devriez être produit par Quincy Jones, le grand jazzman. Et là, Prince s'est levé en disant, jamais de la vie, moi, je me produis tout seul. Et il est sorti en claquant la porte. Et Ted Templeman, qui raconte ça dans son autobiographie, dit, il avait pas tort, parce que finalement, un an plus tard, il s'est produit tout seul, et il a fait Purple Rain. Donc, oui, il y avait une vraie rivalité, pour revenir à cette histoire de Prince et de Michael Jackson. Elle était avant tout musicale. On l'a un peu monté en épingle, parce que le business de la musique a toujours adoré les rivalités. Dans les années 60, c'était James Brown face à Otis Redding. Évidemment, les Beatles et les Rolling Stones. Mais, globalement, elle a nourri la musique de ces deux artistes. Ça a fini de manière un petit peu tragique, en réalité, parce que Prince, en 2007, a donné 21 concerts d'affilée à Londres. C'était quelque chose d'assez phénoménal. Et deux ans plus tard, Michael Jackson a voulu relever le défi, donner encore plus de concerts à Londres, et il est mort juste avant.
Ah, donc c'est peut-être cette rivalité.
Ça peut être dangereux, la rivalité.
Oui. Par perdre Michael Jackson.
Peut-être. Eh oui.
Enfin, ils sont morts tous les deux. Oui, maintenant, ils sont morts tous les deux. Oui, la balle au centre.
En tout cas, merci Fred Goati. Numéro spécial de Jazz Magazine consacré à Prince, 5 ans après, et dans tous les kiosques.
Merci à vous.
Et je vous conseille aussi le livre d'Alexis Tain, Prince, le signe noir, paru aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les princes rebelles de l'histoire. Après Gaston d'Orléans et Prince, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un prince bien vivant. Bon, vous me le faites passer pour mon ennemi juré alors que franchement, j'ai rien contre lui. Bon, il est un peu décevant. C'est le prince Harry de Galles.
Il est un peu décevant, mais,
oui,
mais calmez-vous,
tout.
Stéphane. Je crois que vous avez toujours en travers de la gorge cette interview chez Oprah Winfrey. Je vais tenter cet après-midi de vous réconcilier avec le prince Harry, duc de Sussex, ou, si vous avez du temps devant vous, Prince Henry Charles Albert David, duc de Sussex, comte de Dumbarton et baron Kelkill, plus communément appelé par Stéphane Bern.
Le roast beef.
Le prince Harry est né le 15 septembre 84 à l'hôpital Sainte Marie de Paddington à Londres et il est depuis toujours le bad boy de la famille royale, alimentant depuis son adolescence olé olé, conjuguant avec bonheur binge drinking, striptease et déguisement nazi, les colonnes des tabloïds et le désespoir de Stéphane qui m'avouait hors antenne alors que je ne sais quel journal l'interroger une énième fois sur les frasques de Harry.
J'en peux plus de parler de ces conneries.
En termes de conneries, il faut dire que la vie de Harry est un véritable inventaire à la Prévert. La poésie en moins. Petit rappel pour les étourdis, Harry, c'est le second fils de Charles et Diana, petit-fils de la reine Elisabeth II et de feu Philippe d'Édimbourg. Il est né prince du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et à l'époque, vous n'aviez le droit de vous adresser à lui qu'en l'appelant « Son Altesse Royale ». Maintenant qu'il a renoncé à ses titres, un simple « Wesh gros » suffit.
« Wesh gros ».
N'en abusez pas non plus Stéphane, c'est mesquin. Les jeunes années d'Harry et William ressemblent à un conte de fées avec en plus une petite touche sociale. En effet, quoique archi-privilégiés, Harry et William ne vont pas grandir totalement déconnectés des réalités du monde. Leur mère Diana veut que ses enfants fassent l'expérience du monde en vrai. Elle insiste donc pour qu'ils l'accompagnent lors de ses visites dans des orphelinats, des hôpitaux ou encore des refuges pour sans-abri.
Il y a une drôle d'odeur, vous trouvez pas?
Oui, darling, ce sont des sans-abri.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas de château, mamie? Oui, c'est un peu ça, mon chéri, ils n'ont pas de château. Comme vous le savez, Stéphane, mais visiblement vous l'oubliez vu votre acharnement contre...
Le roast beef.
Oui, Harry a grandi sous l'œil des médias. Ça veut dire par exemple que les flashs crépitent en septembre 87 pour son premier jour d'école. Psychologiquement, le gamin a quand même des circonstances atténuantes, surtout si on ajoute qu'en 92, ses parents se séparent, toujours sous l'œil des caméras, et que pire, en 97, sa mère meurt. Là encore, quasiment sous l'œil des caméras, le terrible accident du pont de l'Alma, les paparazzi et le malheur des uns faisant le bonheur des autres. L'envol véritable de la carrière de Stéphane Bern, oui. Ah bah, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Hein. Pas de fausse pudeur entre nous. Dans Historiquement Vôtre, on se dit tout. Le décès de Lady Di est à Stéphane ce que les attentats du 11 septembre sont à David Pujadas. Non, un formidable coup d'accélérateur pour sa carrière. Vous devenez incontournable. J'espère quand même qu'à l'époque du drame, vous avez eu une pensée pour...
Le roast beef.
Le 6 septembre 97, des milliers de personnes moins insensibles que vous se rassemblent pour dire adieu à la princesse du peuple. On retient, en tout cas, je retiens, moi qui ai un cœur, cette image bouleversante de Harry, 12 ans, marchant solennellement avec William derrière le cercueil de sa maman dans les rues de Londres. Le traumatisme est évidemment terrible. Il structure peut-être la personnalité de Harry, qui pendant des années va faire des cauchemars où il revit la mort de sa maman. Comment s'étonner alors qu'une fois devenu adolescent, Harry se jette à corps perdu dans l'alcool et la fête? Comme des centaines et des milliers de jeunes qui certes ne sont pas princes de sang, Harry découvre la tequila et aussi ce que Stéphane et les gens de sa génération appellent la...
Marijuana.
La marijuana. Horrifié par ses pratiques, son frère Charles l'envoie visiter un centre de désintox dans le sud de Londres, mais ça marche moyen. Harry a heureusement un côté aventurier, baroudeur en tout cas. Après avoir étudié à Eton, il prend une année sabbatique pour découvrir l'Argentine, l'Australie et l'Afrique où il travaillera dans un orphelinat. Vous voyez un gars bien?
Le roast beef.
Au retour de son road trip, Harry décide que l'université, c'est pas pour lui. Au charme discret des livres, il préfère le fumer plus viril de la caserne.
Il a un choix de déguisement aussi.
Oui, mais ça vient. Harry entre à Sandhurst, la principale académie militaire britannique, finit les soufflettes à la marijuana, les aquariums de bœufs. C'est en tout cas ce que dit son père Charles, qui va vite déchanter. Car même jeune adulte, Harry reste un prince rebelle. Il continue à sortir, à boire, à fricoter sec. Il a pourtant un modèle dans la vie.
C'est Joseph Goebbels.
Non, Stéphane, arrêtez avec cette histoire de déguisement nazi. C'était en 2006. Bon, il s'est excusé, c'était malencontreux. Oublions.
Uniforme de l'African Corps.
Tournons la page. Non, ce modèle qu'Harry avait sous les yeux, c'était son frère William, un jeune homme bien sous tout rapport.
Il aimerait lui aussi fréquenter les jeunesses hitlériennes.
Oui, mais lui, il a le sens du devoir, Stéphane, et de la fonction. Il l'a toujours. Harry, lui, continue de vivre sa meilleure vie, sans se soucier de l'image qu'il renvoie. Il enchaîne les soirées d'ivresse, et c'est ça même au deuxième hobby préféré de Stéphane après la restauration du patrimoine, le strip billard. Strip billard, qui, comme son nom l'indique, consiste à jouer de la queue dans une salle de billard, mais nu, et de préférence à Las Vegas, et de préférence sous l'œil d'un photographe indiscret. Évidemment, les photos de la lune de Harry sortent dans le Sun, ce qui d'ailleurs ne manque pas de piquant quand on a suffisamment d'anglais pour comprendre le jeu de mots. Bref, vous l'avez compris, les soirées de Harry sont de celles dont on ressort...
Au mieux, en titubant, au pire, à quatre pattes.
Visiblement, vous connaissez bien ce genre de soirée, Stéphane. En 2006, fini de rire, Harry part sur le théâtre d'opération, comme on dit dans le jargon militaire. Mais même dans l'armée, il n'échappe pas aux polémiques, en cause des vidéos où on l'entend utiliser un langage déplacé, voire un brin raciste, à l'égard d'un camarade pakistanais. Il s'excusera une fois de plus et sa hiérarchie le condamnera à suivre une formation de sensibilisation au respect des communautés. Et aussi, en cas d'échec, il devra écouter en boucle « Mon pote le DJ » de François Valéry.
Mon pote le DJ, il est sympa comme tout.
Je peux vous assurer qu'il a vite oublié cette histoire de surnom. Prince rebelle, militaire tête brûlée, champion de strip billard, Harry est aussi longtemps un cœur à prendre. En 2014, une émission sobrement intitulée « I wanna marry Harry », je veux épouser Harry, débarque à la télé. Une sorte de bachelor un peu tordu dans lequel la production fait croire à un groupe de jeunes filles célibataires qu'un sosie de Harry est vraiment le prince Harry à la recherche du véritable amour. Mais pour Harry, l'amour ne se trouve pas dans une émission de télé, dans une série de télé. En 2015, comme moi, Harry regarde Suits et fantasme sur le personnage de Rachel Zane, incarné par Meghan Markle. En 2016, pas comme moi, Harry pécho Meghan Markle après l'avoir rencontrée à Toronto. L'affaire ne traîne pas puisqu'au mois de novembre de la même année, Kensington publie une déclaration confirmant leur relation et demandant le respect de leur vie privée après que Markle a été victime d'attaques racistes et sexistes sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, voilà qui apporte enfin une stabilité à Harry, une stabilité dans la rébellion, car que peut-on faire de plus rebelle lorsqu'on est prince qu'épouser une actrice américaine divorcée, fille d'une mère afro-américaine? La cérémonie a lieu dans la chapelle médiévale de Saint-Georges, au château de Windsor, mais ne ressemble à aucune cérémonie royale. Pour la première fois dans une cérémonie officielle britannique, la culture afro-américaine s'invite à l'église avec une chorale gospel qui entonne Stand By Me et un sermon passionné dans la plus pure tradition des prêches du dimanche à Harlem. Les fans d'Harry et Meghan saluent la modernité de ce couple qui ose secouer les traditions et reflète le paysage multiculturel d'une Angleterre qui change. Les autres marmonnent dans leur barbe.
Le roast beef.
Le 6 mai 2019, Harry et Meghan ont leur premier enfant, un garçon nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Un adorable bambin dodu qui n'est pas sans rappeler David Petit. Stéphane lui trouve immédiatement un surnom.
L'obèse au visage de poupon.
Mais voilà, cet heureux événement n'arrive pas à apaiser les tensions avec le reste de la famille royale, ni avec Stéphane visiblement.
Mais
en janvier 2020...
Là, c'est vous qui mettez de l'huile sur le feu.
C'est vrai, j'en rajoute, vous allez avoir, vous allez avoir un mail. En 2020, Harry et Meghan annoncent qu'ils veulent renoncer à leur fonction royale et devenir financièrement indépendants. Leur vie se fera désormais sans contrainte protocolaire entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Buckingham annonce que Harry et Meghan ne seront plus des membres actifs de la famille royale. Concrètement, ça veut dire plus de thunes. Alors non, l'adagio d'Abinoni peut-être pas, hein, comme dirait Stéphane, avec leur villa de 12 chambres et 14 salles de bain, on a du mal à pleurer sur leur compte, d'autant qu'ils ont surbondi avec notamment une agence chargée de gérer et de monétiser leur prise de parole. Harry peut facturer par exemple 1 million de dollars par conférence donnée, sympa, et le couple signe également un contrat avec Netflix à hauteur de 100 millions de dollars, se montrant ainsi meilleur en affaires que Stéphane quand il a négocié son salaire avec Europe 1.
Vous me payerez ce que vous pourrez.
Tiens, voilà 10 balles. Parmi les prestations rémunérées qui ont fait débat, évidemment, il y a... ce qui a indéniablement constitué le point de rupture entre le prince Harry et Stéphane Bern, l'interview vérité à Oprah Winfrey. Le téléphone de Stéphane n'avait pas sonné comme ça depuis la mort de Lady Di. Je vous ai dit de changer de sonnerie de téléphone, Stéphane. Ce que vous pensez du comportement de Harry et de sa femme, on le sait, vous avez trouvé cette interview assez déplacée, leur plainte un peu hors sol, le racisme au sein de la famille royale, vous n'y croyez pas, et surtout, le timing était honteux, sachant que ce pauvre Philippe, hein, le papy de Harry, était entre la vie et la mort, et on le sait maintenant, plus du côté de la mort que de la vie. Vous avez raison, Stéphane, et je propose qu'on fasse payer à Harry son insolence en écoutant 15 secondes de mon pote le DJ, et vous allez voir, 15 secondes de mon pote le DJ, c'est très long.
Mon pote le DJ, il est sympa comme tout, mon pote le DJ.
Est-ce que vous connaissez ce petit trésor de François Valéry, qu'on embrasse au passage?
Non.
C'est le symbole de toute une époque. C'était ma tentative de réhabilitation du prince.
Mal, ouais.
Et oui, effectivement, et celui qui, ne vous en déplaise, restera toujours pour moi...
Le roast beef.
Non, le petit garçon qui marche derrière le cercueil de sa maman, monstre sans cœur que vous êtes. Pour plus d'informations sur la famille royale, je vous renvoie vers les spécialistes de la bande, Stéphane bien sûr, mais aussi David, dont la chronique sur le Queen's English, l'anglais que parle Elisabeth II, serait... aux dernières nouvelles sur la shortlist du prix Pulitzer, je vous l'annonce David, notamment grâce à la qualité du travail d'enquête, souvenez-vous.
Pourquoi la reine parle avec un anglais chelou? Alors malheureusement, je devais parler à un spécialiste de la question, mais qui n'était disponible que demain.
Les experts Buckingham, c'est comme ça qu'on devrait rebaptiser cette émission.
Non mais je vous l'aurai, hein.
On l'aura un jour.
Merci Mathieu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, c'est aussi, vous le savez, l'histoire des inventions, des objets qui changent notre quotidien. Quand j'étais adolescent, j'ai utilisé du Biactol. Ça ne fonctionne pas.
Non.
C'est en libre accès.
Non.
En revanche, vous allez nous parler, David, d'un produit qui n'est pas du tout en libre accès. Il faut passer par la case dermatologue.
Qui s'appelle.
Qui est efficace. Le Roaccutane.
Le Roaccutane, tout à fait. Moi, je fais partie des gens qui ont eu de l'acné et qui ont été au bord de la dépression à cause de l'acné. Je l'ai eu en plus légèrement plus tard que mes camarades. J'étais en première terminale. Vous voyez, c'était tard quand même. Et ça m'a profondément déprimé. Des fois, je restais chez moi pour pas me montrer. Quand j'étais obligé de voir des gens quand même, je mettais de profil comme ça, pour parler aux gens pour que tel bouton se voit moins. C'était vraiment une période lamentable de mon existence et elle s'est prolongée longtemps. Parce qu'à 19 ans, j'avais encore quand même pas mal de boutons. Et puis un jour, je suis allé chez ma dermatologue, Madame Marzeau-Lejoyeux, rue La Condamine. Et Madame Marzeau-Lejoyeux m'a dit, si vous voulez, je vous donne du Roaccutane. Elle m'a dit, franchement, c'est assez miraculeux. Alors pour ceux qui connaissent pas le Roaccutane, ce sont des gélules qu'on prend tous les matins et qui vous assèchent le visage à un point fou. Mmh. Ça fait de votre visage une terre de désolation où rien ne pousse. Alors bien sûr, pour compenser cette immense sécheresse, on vous prescrit des crèmes et des baumes à lèvres. Mais moi, la deuxième chose que j'aime le moins dans la vie après le nazisme, c'est les crèmes pour le visage. Ça m'est insupportable. Et donc, résultat, je ne les mettais pas.
et mon visage était ravagé. On aurait dit que j'avais la lèpre. J'ai des photos de cette époque-là. Et j'aimerais aujourd'hui m'excuser auprès de ma petite amie de l'époque.
Et vous aviez une petite amie, ce qui est déjà miraculeux,
oui,
quand même.
Qui s'appelait Judith. Et je lui ai fait subir ça.
Elle était non-voyante, donc.
Voilà. Non, elle était complètement voyante, mais je pense qu'elle m'aimait au point d'accepter ce champ de bataille dégueulasse qu'était mon visage. Mais, après quelques mois de souffrance sur mon visage, l'Euroaccutane, ça a marché. Pour moi, comme pour 85% des personnes qui en prennent, ça a été miraculeux. J'ai cessé d'avoir des boutons et j'ai pu enfin entrer dans l'âge adulte avec une peau de qualité honorable. Mais alors, d'où il vient ce médicament miracle qui a sauvé tant de jeunes de la boutonnerie ? C'est ce qu'on va voir. Mathieu, vous devez connaître le laboratoire Roche.
Je connais très bien.
C'est une des plus grandes entreprises de pharmaceutiques au monde, qui a son siège à Bâle, en Suisse, et qui est connue pour plein de médicaments contre la tristesse, comme le Lexomil ou le Valium. Et dans les années 60, au laboratoire Roche, il y avait un monsieur qui travaillait, qui s'appelait Werner Bollag. Werner, il cherchait un médicament contre le cancer, ce qui est une activité très noble, et il était en particulier en train de tester une molécule qui s'appelle l'isotrétinoïne pour voir si elle avait des effets bénéfiques sur le cancer de la peau. Et il s'est rendu compte que la réponse était non, ça n'a aucun effet sur le cancer de la peau. En revanche, il a remarqué que ça marchait incroyablement bien pour traiter l'acné. Sauf que, il a aussi remarqué une autre chose, c'est que cette molécule était tératogène. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, tératogène ?
Non, mais en partant sur l'étymologie, Stéphane devrait pouvoir trouver.
Tératos en grec,
tératos.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Non.
Ça élimine tout ?
Non. Tératos, ça veut dire monstre. Ça veut dire
pourtant thérapeutique.
Oui, mais c'est théra, pas thérato.
Moi, oui, peut-être.
Voilà,
oui,
voilà. Puis il n'y a pas de H non plus. Tératos, ça veut dire monstre. Et donc, tératogène, en gros, ça veut dire qui est susceptible d'engendrer des monstres. Vous avez saisi ?
Je frissonne.
Et oui, en gros, cette molécule, elle guérit l'acné, certes, mais si vous en prenez pendant que vous êtes enceinte, ça transforme votre bébé en strum.
Ah oui, c'est vrai, ça.
Mais oui, mais c'est vrai que, et c'est vrai que si pour ne plus avoir de boutons, le prix à payer, c'est d'engendrer des bébés de mauvaise qualité, on se dit que peut-être il vaut mieux garder ses boutons. Et en plus, à l'époque, dans les années 70, c'était peu de temps après le scandale du thalidomide. Est-ce que vous connaissez le scandale du thalidomide ?
Je ne me souviens plus, non ?
Le thalidomide, c'était un antinauséeux qu'on donnait beaucoup aux femmes enceintes dans les années 50-60. Et effectivement, c'était hyper efficace contre la nausée. Mais ça faisait aussi des bébés qui avaient les mains attachées directement au tronc.
Ah oui,
ce qui est certes mieux que de ne pas avoir de mains du tout, mais on peut le dire, c'est quand même beaucoup moins bien que d'avoir des mains attachées à des bras. Et donc, Werner, avec ça en tête, il s'est dit vas-y, on laisse tomber cette molécule pour l'acné parce que c'est quand même trop cher payé. Mais quelques années plus tard, deux autres chercheurs ont redécouvert la molécule et en 1982, l'année de votre naissance, Mathieu, après plein de tests cliniques desquels les femmes enceintes avaient été exclues, l'Euroaccutane a été approuvé et mis sur le marché aux États-Unis. Mais de façon assez prudente, avec des mises, de façon pas assez prudente et avec des mises en garde pas assez sévères, pas assez de stickers sur les boîtes. Et donc, il y a eu aux États-Unis, alors qu'on savait que ça avait des graves problèmes sur les grossesses, ça y a eu aux États-Unis beaucoup de cas de ce qu'on a appelé les bébés Roaccutane, qui naissaient en particulier avec des becs de lièvre. Et la difficulté, depuis, c'est de s'assurer que les femmes qui prennent du Roaccutane ne tombent pas enceintes. Et ça, on y arrive de mieux en mieux. Aujourd'hui, si vous êtes une femme qui veut prendre du Roaccutane, vous devez fournir un test de grossesse avant le traitement, puis chaque mois pendant le traitement, et encore un mois après le traitement. Et donc, effectivement, depuis, le nombre de cas de bébés Roaccutane a énormément baissé. Il n'empêche, moi, ça m'a quand même beaucoup aidé, le Roaccutane, donc je pense que ça m'a un petit peu sauvé de la dépression à un moment de mon adolescence. Mais il m'arrive quand même toujours d'avoir des boutons, un ou deux, ici ou là, et depuis 20 ans...
Vous ne reprenez pas du Roaccutane.
Non, je ne reprends pas du Roaccutane quand même à chaque fois que j'ai un bouton. Mais depuis 20 ans, j'ai encore sur moi un petit stick camouflant de la maison Normaderm que je vous ai sorti ici, contrairement à la brosse à dents de Stéphane l'autre jour. Moi, j'en ai un sur moi et encore régulièrement, ça me sauve.
Ça me sauve la mise.
Ça, ouais. ça sauve mon visage dans les moments difficiles. Quoi.
C'est une bien belle histoire que celle du Roaccutane et un des effets secondaires du Roaccutane. Et vous dites toujours de ne pas l'utiliser l'été. Est-ce que vous comptez vous exposer au soleil ? Moi, je disais oui, j'espère bien. Non, il ne faut pas s'exposer au soleil quand on prend du Roaccutane.
Mais c'est ce que vous avez fait ?
C'est ce que j'ai fait malheureusement. Et effectivement, depuis, ma peau est photosensible.
Parce que moi, je me souviens très bien de ça et je me souviens très bien que j'ai arrêté d'en prendre parce que j'allais
au soleil.
Et ça, c'est vrai qu'il faut le dire aux jeunes qui nous écoutent, c'est un médicament miracle. En revanche, il y a quand même de gros effets secondaires.
Ni être enceinte, ni prendre le soleil.
Ni bronzer,
Troisième chose, ça a été lié un petit peu un moment à des suicides.
Ça peut créer de la dépression.
Ça n'a pas été complètement prouvé, mais c'est...
Ça a été l'inverse.
Mais moi, ça a été l'inverse. Donc aussi, il faut les prendre en compte, ces cas-là.
Et bien, en tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Entre ici, Olivier Pouls, avec ton cortège de saumon à l'oseille.
C'est un plat de résistance.
Oh là là, c'est l'acmé de cette émission et non pas l'acné de cette émission. On est chez Olivier Pouls, pardon. On ne va pas vous déconcentrer. Le saumon à l'oseille.
On y vient dans un instant. Mais auparavant, je voudrais revenir une petite seconde. Vous m'avez parlé tout à l'heure en ouverture de cette heure en me disant que vous aviez reçu le message d'une auditrice qui nous écoute.
Oui, et un message sur Instagram.
À Los Angeles, et qui me dit, alors que je critiquais un peu l'avocat, il faut beaucoup d'eau. Mais combien faut-il d'eau pour un kilo de bœuf? Et je crois qu'elle a avancé le chiffre de 15 millilitres d'eau. Je l'engage à aller directement sur le site de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, qui bat en brèche ce site en expliquant que c'est un faux calcul qui a été attribué d'ailleurs par une mouvance végane un petit peu sombre, et qu'en réalité, il faudrait entre 550 et 700 litres d'eau pour produire un kilo de viande de bœuf. Allez regarder les chiffres, je les ai vérifiés.
Donc moins que pour un avocat.
Pour un avocat, il faut pour faire un kilo d'eau, il faudrait moins que pour un avocat.
Parce qu'on intègre beaucoup d'eau, de type d'eau, ce qu'on appelle l'eau qui coule, l'eau qu'on apporte directement, l'eau que la nature donne. Enfin bon, bref, il y a tout un calcul assez savant.
Votre chronique sur le saumon à l'oseille, s'il vous plaît.
Alors, pour produire un kilo de saumon, en revanche, il ne faut pas d'eau. Hein. Il est directement dedans, donc c'est beaucoup plus pratique. Alors, c'est une recette contemporaine parce que la cuisine, ce ne sont pas que des vieux grimoires, ce ne sont pas que de vieilles et d'anciennes recettes qui ont plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années. Le saumon à l'oseille est un plat fondateur de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. Et la date de cette création, on l'a, c'est 1962. C'est le grand chef cuisinier Pierre Troisgros qui, à l'époque, a repris avec son frère la maison éponyme Troisgros à Roanne. Ils ont une étoile au guide Michelin. Et il crée ce plat qui est, je le disais, assez symbolique de ce qu'on va appeler la nouvelle cuisine, c'est-à-dire une cuisine qui va casser les codes de ce qu'était la cuisine auparavant. C'est une cuisine très 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 riche, très grasse, constituée de fond de sauce, très roborative, pour l'alléger, pour aller donc vers les saveurs et surtout pour aller vers le produit, beaucoup plus proche du produit. Alors, comment a-t-il inventé cette recette? C'est la combinaison, en réalité, de trois petites expériences qu'il va vivre. Et la première, il a travaillé chez Maxim's. C'est chez Maxim's qu'il a appris une technique qui est une technique qui consiste à aplatir les filets de saumon pour en répartir la hauteur. C'est-à-dire que chez Maxim's, on prenait le filet de saumon, on le mettait entre deux feuilles de papier, et on tapait dessus avec une batte pour l'aplatir, pour en faire une espèce de galette plus fine et qui était d'une épaisseur constante. Donc pour la cuisson, c'était plus intéressant. Deuxième petite expérience, il est allé passer des vacances au bord de l'Adour, dans les Pyrénées, où on pêche et on pêchait, surtout à l'époque, beaucoup de saumon sauvage. Il a découvert là-bas que les pêcheurs de saumon le mangeaient pratiquement cru, c'est-à-dire à peine cuit, ce qui n'était pas le cas dans les restaurants de l'époque où on le cuisait très fortement. Et donc, il a trouvé que cette texture du poisson presque cru à l'intérieur était beaucoup plus intéressante. Et puis, troisième petite expérience, alors qu'il était en train de faire une réduction de vin blanc, d'échalotes avec un petit peu de vermouth, sa maman, qui cueillait beaucoup d'herbes dans les alentours, était arrivée avec une botte d'oseille. Et machinalement, tac, il a attrapé l'oseille, il l'a mise dans sa réduction et il a trouvé que l'oseille avait vraiment quelque chose de très intéressant, ça ramène beaucoup d'acidité et qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Toute cette histoire, c'est évidemment son fils qui la raconte aujourd'hui, Michel, et il a donc eu l'idée d'associer ces trois techniques pour faire ce plat qui deviendra le plat emblématique de la maison Troisgros, au point qu'ils ont du mal à s'en débarrasser, à le retirer de la carte, parce que si malheureusement
les gens
en veulent, alors bon, Michel explique qu'il l'a retiré, puis remis, puis un peu réinterprété, etc. Mais aujourd'hui, peut le faire soi-même, parce que c'est pas un plat techniquement très compliqué à réaliser. Il reste extrêmement contemporain, dans le sens où on est vraiment au plus proche du produit, c'est-à-dire le saumon, qui est très peu cuit, et c'est la mode aujourd'hui de plutôt peu cuire les poissons. Une sauce très simple et très lisible, qui est une sauce qui reste légère. Il y a juste un tout petit peu de crème dedans. Donc, c'est une réduction de vin blanc, d'échalotes, de vermouth, dans laquelle on a rajouté un tout petit peu de crème et puis tout simplement de l'oseille. Et puis, une cuisson à l'unilatéral ou en snacké. Il y a deux versions, je crois, du saumon qui est vraiment cuit 10 secondes de chaque côté.
Un tataki, quoi.
C'est pratiquement ça. Alors, il faut savoir que cette recette a été tellement marquante que la gare de Roann, en face de laquelle se trouvait très longtemps le restaurant Trois Gros, a été peinte pendant de nombreuses années aux couleurs de ce plat. Elle était rose et verte. Alors, il faut savoir que le restaurant des Trois Gros a déménagé. Aujourd'hui, il est à Ouche. Et puis, il faut savoir aussi que pour ce plat, ont été inventées des assiettes spécifiques creuses de grande taille, parce qu'il n'en existait pas à l'époque. Mmh. Et on a également inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la cuillère ou la pelle à sauce, c'est-à-dire une cuillère qui est un peu plus plate que la cuillère à soupe classique et qui permet à la fois de découper le poisson et de racler la sauce.
Mmh. Écoutez, on retrouve évidemment toutes vos recettes sur europe1.fr, Olivier, mais là, vous nous avez vraiment ouvert l'appétit. Stéphane n'en peut plus, je crois qu'il est à deux doigts de prendre la poudre d'escampette.
Exactement,
pour aller dîner.
C'est mon mot de la fin.
C'est vrai.
Incroyable.
C'est tellement bien fait cette émission, c'est dingue.
Oui, alors vous qui êtes un modèle de courage, Mathieu, vous qui savez faire face à l'adversaire, au problème, je sais, vous n'avez jamais pris la poudre d'escampette. Mais pourtant, l'expression existe et tout le monde la connaît, à défaut de l'utiliser tous les jours. Mais d'où vient cette escampette et de quoi est faite cette poudre ?
Je me lance, j'ose, ça vient peut-être de l'univers militaire.
Ah, là, je vous avoue que je suis subjugué par votre instinct, votre capacité de déduction, votre finesse d'esprit. Ça doit être à force de me côtoyer ou à force de lire les questions dont vous ignorez tout dans le quiz. En effet, l'expression est d'origine militaire. Avant de vous le confirmer officiellement, sachez que escampette vient de la formule prendre l'escampe. L'escampe elle-même vient du verbe occitan escamper, qui signifie se sauver. Au XVIIe siècle, la mode dans la haute société est de se mettre de la poudre dans le nez et de disparaître tout à coup. Rien à voir avec ceux qui disparaissent pour aller se mettre de la poudre dans le nez dans certains milieux interlopes que je désapprouve fortement. C'était à l'époque des poudres purgatives principalement vendues par des charlatans. Argan, dans le malade imaginaire de Molière, en faisait en plus des saignées. Prendre la poudre d'escampette, c'est aussi la poussière que soulève le fuyard quand il part bruyamment. Mais c'est aussi dans le domaine militaire, on y vient, quand une bataille se passait mal, les soldats qui allaient se réfugier en arrière-ligne, prétextant devoir aller aux réserves de poudre de canon qui se trouvaient à l'abri. Souvent, ils en profitaient pour déserter.
Carrément.
Dire, voilà. Allez, revenons à aujourd'hui. En Espagne, on dit « poner los pies en polvorosa », faire de la poussière avec des pieds pour dire « décamper ». On retrouve donc toujours cette idée de poudre. En slovaque, pour dire fuir,
aussi.
Non, pas du tout. On dit s'évaporer comme du camphre. C'est étonnant. Et au Japon, c'est shirinio wo kakeru, qui signifie mettre les voiles aux fesses. Faut avouer qu'on a bien l'image que les fesses qui ont des voiles.
On a l'image surtout quand vous agitez les mains comme un élégant battement d'ailes, Stéphane. Oui. Historiquement votre spécial prince rebelle, c'est terminé. Ai-je réussi à vous rendre le prince Harry plus sympathique? J'ai l'impression que vous...
Oui. Follement sympathique. Follement. Non mais vraiment sympathique. Oui. Puis on sent, vous voyez, que c'est un type équilibré qui a trouvé vraiment l'épouse qui... Non mais je suis très content pour lui.
On est très content pour lui.
Cette vie à Los Angeles,
c'est beau.
C'est ce dont rêvent tous les princes.
Et puis quand même, moi je m'inquiétais un peu quand j'ai appris qu'ils n'auraient plus de sous de Buckingham.
Oui,
j'ai eu peur. Puis quand 100 millions,
ils sont partis à 45 millions.
Oui,
puis là, ils ont eu 100 millions de prêts.
Et finalement, non, ça fait 145 millions, ça devrait vous leur permettre de tenir 2-3 ans.
Au moins 2-3 ans.
Oui, facilement. Demain, on fête le bicentenaire de la mort de Napoléon. J'imagine qu'on a prévu un truc, un buffet, des petits fours. Chose, Stéphane, non?
Bah, des petits fours, non, mais des grands personnages qui avaient une passion, une fascination pour Napoléon. On réunit pour l'occasion le virtuose Beethoven et le philosophe Nietzsche.
Et Serge Lama, aussi grand fan de Napoléon, pardon, de Napoléonais. Oui, on va chanter, on va danser, on va guincher. Et j'espère qu'il y aura aussi des knacky balls de Napoléon. On était très friands, Stéphane.
Ah ben, n'hésitez pas à en apporter, Mathieu.
J'ai ça au frais.
À demain,
les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.